De Lampedusa à Calais, troisième partie. Philippe, Lucie, Camille et Camille abordent la situation à Calais.
On a envie de faire un petit point sur la situation. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Un petit point.
Un gros point,
parce qu'on a plein de choses à dire. Sur un petit peu ce qui se passe en ce moment. Et puis voilà, un petit peu ce qu'on en pense. Et que forcément, bah, toute cette politique européenne dont on a parlé avant, elle va avoir des incidences directes à Calais. Et peut-être qu'on peut commencer par cette nouvelle version de Frontex Plus qui va mettre pas mal d'argent dans la sécurisation du port, dans des moyens humains aussi. On parle de ça ?
Oui.
Mais du coup, c'est pas Frontex Plus ?
Non.
C'est pas Frontex Plus ? Eh bien, je me trompe.
Non.
Ah non, c'est l'accord...
Frontex, c'est les frontières européennes, les frontières extérieures de l'Union européenne,
ouais.
En fait.
Ah ouais, c'est bien de rappeler ça.
Mais l'Union européenne, c'est plein de frontières à l'intérieur, en fait, surtout quand on n'a pas les bons papiers et qu'on n'a pas la bonne nationalité, dont la frontière britannique.
Ouais.
Mais ça s'arrange en bilatéral, en fait.
C'est vrai. Et cet arrangement, bilatéral, il est tout neuf.
Ouais.
Il y en a un nouveau.
Ouais.
Un nouveau. Et il a décidé de dédier 15 millions d'euros... pour que les plus français à Calais puissent s'en servir
sur 3 ans.
Sur 3 ans. Et pendant ces 3 ans, qu'est-ce qui va se passer ?
Ah, mais on ne sait pas. Enfin, en tout cas, là, c'est je crois que là, c'est une réponse là, que la Grande-Bretagne a donnée. Justement, je pense par rapport à cette pression qu'ils commencent à subir sur le fait que les responsabilités elles doivent aussi être partagées, il me semble, mais que l'Angleterre de plus en plus s'oppose aussi quand même à l'arrivée des réfugiés, mais notamment en limitant de plus en plus les aides sociales, hein, parce que c'était aussi pour ça que beaucoup de réfugiés souhaitaient continuer à aller là-bas. C'est qu'il y avait quand même apparemment une politique d'aide un peu moins un peu moins brutale que la France, mais que là voilà, le gouvernement est quand même en train de un peu arrêter ces trucs là. Et donc sur les derniers débats autour de la prise de responsabilité, l'Angleterre donc propose de, en gros de soutenir la France en construisant plus de barbelés et de grillages et un espèce de mur. Et voilà, enfin en accentuant la sécurité du port, voilà. Parce que quand même, tous ces gens qui veulent passer, ça crée aussi des problèmes économiques. Hein. Pour Calais, pour les boîtes privées de transport, etc. Je crois, quand même.
T'es ironique en disant ça ou...
Non, c'est vrai. C'est qu'il y a
vraiment... J'ai entendu
vraiment...
que ça avait été aussi un petit peu surévalué les répercussions que certaines études sur la portée
oui.
économique, en fait, montraient... J'avais entendu des déclarations comme ça, personne officielle, que finalement, en même temps...
Oui, de toute façon, c'est toujours ironique. Je veux dire, là, on parle d'économie et en face, on parle d'humains
ouais.
qui veulent plus de sécurité. Donc oui, non, mais bien sûr. Voilà, ça, on peut quand même dire que c'est une belle farce. Encore, c'est 15 millions parce que... Et bien là, ils ont de l'argent à sortir pour des barbelés et des flics. Mais que quand on voit là, la situation des associations à Calais, on peut aussi se demander pourquoi cet argent-là ne va pas, par exemple, soutenir plutôt les associations ou le développement de structures d'accueil pour les personnes en stand-by, mais c'est pas le mot que je voulais dire.
Pour les personnes qui passent, qui sont de passage à Calais, tu veux dire ?
Oui, voilà.
Ils sont bloqués.
Voilà,
sont bloqués.
Oui, merci.
Mmh.
C'est l'anglais, ça.
Et ouais, parce qu'en fait, Là, il y a quelques jours en arrière, pendant une réunion interassociative, il y a deux grosses associations quand même assez piliers un petit peu, notamment dans la distribution de nourriture au quotidien sur Calais, bah, qui ont des comptes difficiles, qui n'ont plus trop de sous, qui ont un local pour préparer à manger ou stocker des biens qui leur risque de leur être repris par la mairie parce qu'ils sont en fin de bail, quelque chose comme ça, je crois que c'est le cas de Salam. Et du coup, bah, voilà, qui sont en bout de moyens, en fait, financiers, des fois humains, et puis qui commencent à se poser aussi des questions, peut-être un petit peu, peut-être d'ordre politique, des fois, de se dire, bah mince, on est quand même la valve de sécurité qui arrange bien l'État pour que ça continue, les choses puissent continuer, au minima sur Calais, quoi. C'est-à-dire nourrir un minimum les gens, leur fournir un minimum de choses pour qu'ils se démerdent. Et je sais pas, peut-être que en tout cas les assos ont en tout cas envie de réfléchir. Et peut-être qu'ils ont envie de se poser la question aussi s'ils ont envie de poursuivre ce boulot-là qu'ils font, notamment avec le centre de jour. Parce que ça, c'est un peu la nouvelle étape à Calais. Quand est-ce qu'ils ont annoncé ça? C'est Madame Bouchard, hein.
Alors, au départ, c'est Bouchard qui crée la surprise à la fin du mois d'août, juste avant la rentrée, en disant: je vais demander au ministre de l'Intérieur un lieu d'accueil et d'hébergement pour 400 personnes à Calais.
Elle l'a dit, hébergement.
Elle a dit hébergement. Au départ, c'était un projet avec hébergement. Alors que, bon, elle était avant et elle est redevenue, mis à part ce coup de soleil de la fin du mois d'août, sur ses propos d'ostracisme, xénophobe et compagnie. Je veux dire, voilà, puis tout d'un coup, il faut de l'hébergement. Donc du coup, elle met les socialistes en porte-à-faux. Réponse de Cazeneuve, ah, surtout pas d'hébergement. Donc du coup, c'est elle qui devient la gentille et c'est eux qui deviennent les méchants. Mais du coup, Cazeneuve concède qu'un centre de jour, ce serait pas mal et qu'on va le faire.
Voilà.
Donc du coup, ce qui règle pas la question de l'endroit où les gens dorment, ce qui veut dire que les gens continuent à squatter à droite à gauche dans des conditions hyper précaires, sur des lieux dont ils peuvent être expulsés, etc. Donc ça change absolument pas les données du problème, sauf que ça peut soulager effectivement d'avoir un lieu pendant la journée où on peut aller prendre une douche, etc. quoi.
Oui, puis ça peut même pas soulager en fait. C'est que moi j'ai l'impression qu'ils brandissent ça comme une espèce d'avancée de ma boule, alors qu'en fait ce serait le minimum pour respecter la dignité des personnes qui sont ici, quoi. En fait, ce serait pas, et ce serait pas un énorme merci, en fait. Ce serait quelque chose qui viendrait juste.
Ben, en fait, effectivement, quand on essaye de comprendre la manière dont il voudrait que ça fonctionne, c'est que on a un endroit où on distribue des repas, on a un endroit où les gens peuvent prendre une douche, on a un endroit où les gens peuvent s'informer sur l'asile, on a un endroit où les gens peuvent se poser dans la journée. On ne crée pas quelque chose de neuf, mais on met tout ça dans le même endroit. De l'autre côté de la rocade, en pleine campagne, dans un endroit très joli pour faire un centre aéré. Mais pour y habiter et puis avoir une ouverture sur le monde, sur la société, des possibilités d'échange ou simplement aller acheter quelque chose dans un magasin, c'est voilà, c'est une heure de marche du centre-ville, quoi, concrètement. Donc ça veut dire pas de vie sociale, ça veut dire que c'est un ghetto. Et que on suppose qu'autour, eh ben, les gens continueront à faire du camping en plein hiver dans la joie et la bonne humeur, quoi.
Ouais, la bonne humeur à voir parce que c'est un territoire qui appartient notamment à des chasseurs. Des chasseurs qui sont pas contents, hein. Déjà, ils l'ont affirmé lundi dernier pendant la manifestation du syndicat policier. Ils ont rejoint cette manifestation. Oui, parce que comme tu dis, on peut supposer en fait que les gens ils vont se poser autour de ce centre de jour vu que tout sera centralisé là-bas. Et j'ai même l'impression que c'est un petit peu le plan de Cazeneuve aussi, qui a dit qu'il tolérerait sûrement des gens qui s'installent aux alentours. Mais tout ça, c'est dans un discours hyper officieux, quoi. Hein, il fait des déclarations des fois à la radio, des choses comme ça, mais jamais il s'adresse aux associations ou à qui que ce soit en déroulant un plan ultra précis. Hein, on est dans un flou total. Et du coup, bah, c'est vrai qu'ils laisseraient en fait se refaire un. Les gens se mettent là-bas, mais comme si c'était leur bonne volonté d'aller se mettre à 3 km du premier magasin, comme tu dis, ou de la vie sociale. Alors qu'en fait, en même temps, il explique bien qu'une fois que ce centre de jour sera ouvert, et qu'il laisse la possibilité aux gens de se mettre aux alentours de ce centre de jour, il va là ordonner les expulsions du camp antioxyde, qui accueille entre 700 et 900 personnes, on ne sait pas exactement, et du squat Galou, là, il y a peut-être 200-300 personnes qui y vivent et plusieurs autres centaines qui y passent la journée. Voilà, il a dit, bah, une fois que ce centre de jour sera ouvert, il n'y a plus lieu de. Voilà, on ouvre un centre de jour et on ferme des milieux où les gens ils sont hébergés actuellement, quoi, que ce soit à Galou ou sur les camps, où ils ont tout leur camp qui est installé, la vie elle est en route, il y a toutes les installations sont en place. C'est le minimum, mais les gens, je pense qu'ils vont pas forcément envie de déménager. Et voilà, donc du coup, bah, c'est un petit peu programmé, quoi. La rebidonvilasisation, c'est ça le terme technique.
Ouais, c'était technique.
C'était ça le terme technique pour. Ouais. Donc en fait, ouais, c'est un peu une grande farce.
Oui.
Je voulais dire un truc par rapport aux chiffres aussi, puisque tu dis là, si on fait la somme, que ça fait à peu près 1 millier de personnes. Et quand justement Bouchard elle parlait d'un centre d'hébergement, c'était pour 400 personnes. De même, Cazeneuve, c'était guère plus quoi, dans un accueil de jour. Et j'ai l'impression qu'il y a vraiment aussi une volonté de créer des conditions pour qu'il y ait une grosse tension en fait, entre personnes, parce que ce sera forcément insuffisant par rapport au nombre de personnes qui ont besoin voilà, de meilleures conditions de vie. C'est un peu comme les distributions de repas telles qu'elles sont en ce moment, quoi, que c'est clairement insuffisant et finalement ça arrange tout le monde parce que ça crée de la tension, donc ça renforce l'image de personnes qui se battent, qui. Enfin, voilà, ça. Enfin, je sais pas si vous êtes d'accord, quoi, mais moi c'est un truc que je vois vraiment de donner volontairement de l'aide pas suffisante pour que ça crée de fortes tensions entre personnes.
Ouais,
Alors qu'ils
parce
savent
que
combien il y a de gens
ce qu'on
présents.
peut, ouais, et puis ce qu'on peut aussi fortement supposer avec cette organisation-là, enfin, qui en plus de toute façon n'est que pour l'instant des discours, hein. C'est que qu'est-ce qu'ils vont faire des 1 000 autres réfugiés ou 1 500 autres réfugiés, quoi. C'est-à-dire que on peut aussi supposer qu'il y a un gros système d'expulsion là massif qui va aussi peut-être se mettre en place, et notamment à la suite de ces récoltes d'informations et qui sont là en train de faire pendant ces 15 jours, etc., quoi. On peut supposer ça.
Ben, l'accord qu'il y a eu entre le gouvernement britannique et le gouvernement français, il ne parle pas de centre de jour, il parle juste de mesures humanitaires pour les personnes les plus vulnérables, mais de manière très floue. Et par contre, il parle de renforcement du contrôle à la frontière, il parle d'arrestation, il parle d'expulsion, soit vers des pays de transit, soit vers le pays d'origine. Donc effectivement, ça c'est. Après, quand on reprend les arrangements de 2009 et cet accord-là, c'est pas rédigé pareil. Mais en 2009, il y avait aussi énormément de monde à Calais. Il y a eu aussi eu un accord franco-britannique qui parlait déjà de fric. Alors de manière beaucoup plus précise, c'était les Français payent ça, les Anglais payent ça dans la sécurisation du port. Et puis, il y avait le volet répressif, avec notamment des vols d'expulsion organisés en commun. Ce qui revient dans cet accord-là, c'est la dispersion des concentrations de migrants aux approches de la frontière. Voilà quoi. Enfin, c'est. On a l'impression que c'est quand même une redite de ce qui s'est passé en 2009, quoi, en partie. Y compris la manière de surmédiatiser les choses. C'est-à-dire, il y a eu deux vagues d'expulsion en mai, début juillet. On voit que ça ne marche pas, les gens reviennent, le nombre continue à augmenter. Tout d'un coup, il y a plein de médias qui sont arrivés parce qu'à un moment donné, il y a eu des bagarres. Sauf que si les médias sont arrivés, c'est aussi parce qu'il y a eu de la médiatisation. En tout cas, la mairie de Calais a joué un rôle actif, la préfecture, je ne sais pas.
pour aller chercher les médias, pour les interpeller, pour leur dire là, il se passe quelque chose. Et autour, effectivement, de situations, on voit des gens qui se battent. Alors, ça n'a pas duré longtemps, mais du coup, ça a quand même marqué. Et de la part au moins de la mairie de Calais, il y a une manière d'entretenir de manière permanente, notamment en direction des médias britanniques. L'intérêt, il se passe quelque chose, on annonce des trucs, après on annonce le contraire, et puis voilà quoi. Et puis au final, à un moment donné, les Anglais, Irak. Donc voilà, on a fait une bonne affaire, comme en 2009, où il y a eu toute cette mise en scène autour de l'augmentation du nombre de personnes. Puis à un moment donné, on signe un accord qui est un accord répressif, mais qui est aussi un accord de fric, où on dit voilà, on va sécuriser à la frontière, mais il faut payer maintenant. On a exactement le même rapport en fait que Kadhafi par rapport à l'Italie. Si vous ne me donnez pas d'argent, si vous ne m'aidez pas, attention, les migrants, ils vont tous traverser la Méditerranée, je vous préviens. C'est exactement la même attitude, quoi. On met en scène le risque de l'invasion vis-à-vis de l'opinion publique britannique, respectivement pour Kadhafi de l'opinion publique italienne, et puis on demande les sous ou le soutien politique en contrepartie, quoi. Voilà, on est dans ce genre de rapport entre deux États membres de l'Union européenne, qui est un continent où on s'aime, où on est solidaire, où on fait les choses ensemble. C'est chouette, c'est cool, quoi.
Ouais, puis on a l'impression qu'il n'y a pas du tout de leçons tirées, quoi. Je sais pas. Aujourd'hui, enfin voilà, là c'est le volet répressif, comme d'habitude, qui a l'air de vouloir se mettre en place avec une facette médiatico-humanitaire via ce centre de jour. Mais là, clairement, au jour d'aujourd'hui, plus de flics, plus de grillage, donc ce grand grillage qu'ils voudraient mettre sur plusieurs kilomètres et quelques mètres de haut. Bah, c'est un grillage peut-être qui va ressembler à ceux de Melilla ou de Ceuta, où là, il n'y en a pas qu'un seul, il y en a deux, trois qui se succèdent d'affilée, où au final, bah, les gens mettent en place des moyens de passer, en fait. Quand il n'y a plus d'autres moyens, bah, le moyen, c'est de passer par-dessus. Et ça se voit, et du coup, en fait, c'est pas une réponse, quoi. Je veux dire, faut pas, c'est sûr qu'on peut pas se leurrer, là, aujourd'hui, de se dire que ça va être une réponse à l'immigration, quoi. C'est complètement fou, mais ça continue, par contre, sur le champ de la stigmatisation. La stigmatisation que bah, les migrants, bah, ils sont violents, et c'est sûr que centraliser des lieux de vie avec des communautés beaucoup différentes comme ça, et ben, quand ça se passe bien, tant mieux, mais c'est quand même aussi ça qui est source en fait de tension entre les gens. Sangatte, c'était l'exemple, beaucoup de gens au même endroit, bah, ça fait aussi des ravages, quoi. Et donc en fait, il y a pas vraiment de lecture des événements passés, quoi, pour améliorer la situation, quoi. Et je pense que à Calais en ce moment, la stigmatisation, bah, ça nourrit plutôt un champ. Le champ du racisme et d'autres choses qui s'intensifient, quoi. Moi, peut-être on peut parler un petit peu de ça aussi.
Ouais, moi je voudrais revenir sur ce que le copain il disait avant aussi sur les tensions qui naissent aussi là ces derniers temps, mais parce qu'elles sont aussi bien médiatisées et que du coup elles vont aussi bien dans le sens de ce que les gens ils veulent entendre. Mais c'est juste évident que une telle quantité de personnes rassemblées à un même endroit, qui a faim, qui veut travailler et qui s'est tapé un parcours complètement hallucinant depuis la Libye, l'Afghanistan ou le Soudan pour arriver devant un autre mur. On peut Voilà, je pense qu'il n'y a pas besoin de beaucoup réfléchir pour penser que ça peut rendre un peu fou et que oui, évidemment, il y a des personnes dans ces communautés qui, bah, par divers moyens, vont tenter de se faire un petit peu de sous pour s'acheter à manger. Ou bon, après, on va pas parler des mafias aussi, mais ça. C'est aussi encore le produit de la politique, hein, c'est pas, voilà. Et aussi les violences policières qui en permanence ça, bah, voilà, du coup, par exemple, on n'en parle pas, mais par contre on va parler du migrant qui tabasse un commerçant ou qui va voler quelqu'un parce qu'il a besoin d'un peu d'argent. Oui, c'est une réalité et on va pas le nier. Après, tout le côté aussi misère psychologique qui est pas du tout évoqué, qui est pas du tout pris en compte et qui peut quand même à un moment donné amener à faire des choses que tu ferais pas dans un état normal, j'ai envie de dire, ou en tout cas où au moins tes besoins primaires ils sont satisfaits, quoi.
Ouais, sachant qu'on est aussi sur une image passeur mafia migrant, mais les exilés qui vont en voiture sur les parkings belges pour choper les camions en amont là où il y a moins de contrôle pour revenir essayer de passer à Calais, les chauffeurs des voitures, c'est pas des migrants, c'est généralement des gens du cru ou parfois d'un peu loin. Quand en payant un peu plus cher, on a plus de chances de passer, alors qu'a priori, les contrôles ils dépendent pas de la somme qu'on a payée. C'est bien qu'il y a des complicités dans le port qui s'achètent. Et on a un système de contrebande, comme on a un système de contrebande à toute frontière, et qui implique des gens du cru, comme quand on habite près d'une frontière et qu'il y a des gens ou des marchandises qui sont bloqués à cette frontière, il y a une économie de la contrebande qui se crée. On est tout près de la Belgique, et à une époque, on n'allait pas acheter ses clopes en Belgique aussi facilement que maintenant, et il y avait de la contrebande de cigarettes, quoi, je veux dire. Et il y a sûrement beaucoup plus de choses qui passent illégalement au Royaume-Uni que simplement des humains. On est le principal point de passage pour les camions, il y a probablement d'autres choses qui passent illicitement dans ces camions, à côté des camions, dans les voitures. Enfin, je veux dire, on est une frontière, il y a des choses qui sont bloquées et il y a des gens localement qui sont impliqués pour les faire passer. Donc cette identification passeur égale mafia égale migrant, elle ne marche pas. Ça ne peut marcher que s'il y a une complémentarité entre des gens du cru et des gens qui sont dans cette population d'exilés qu'il s'agit de faire passer, parce qu'il faut bien trouver des clients, il faut collecter l'argent, il faut organiser les coûts, il faut etc. Donc il y a une partie effectivement qui se passe du côté exilé, et puis dès qu'on est sur des prestations un peu plus élaborées, comme aller en voiture sur des parkings plus éloignés ou avoir plus de chances de passer parce qu'on achète des complicités dans le port, il faut identifier les chauffeurs, les complicités, les choses comme ça, et ça c'est des ramifications qui sont dans la société d'accueil. Il faut les deux pour que ça fonctionne vraiment. Et là aussi, on dévie le regard. Et c'est uniquement les migrants qui seraient les méchants. Et non, c'est beaucoup plus compliqué que ça, en fait.
Oui, c'est que... Enfin, il y a aussi la misère engendre la misère et qu'il y a énormément de gens qui tirent profit de cette misère-là, quoi. Et pas que les migrants.
Oui. Après, pour ces types de passeurs français ou allemands, comme ça peut se passer à Boulogne-sur-Mer de temps en temps, c'est quelqu'un que je connaissais qui m'a approché. J'étais au chômage, j'avais un emprunt à rembourser. Il m'a proposé un moyen de gagner du fric, donc j'emmène des gens de temps en temps. C'est des situations qui sont ni de la misère, ni de... qui sont, de l'exploitation, en même temps. Il n'y a pas que du racket, en fait. Il y a aussi le racket, si tu es là et que tu n'as pas payé, je te casse la gueule, y compris si tu plantes ta tente là, tu dois payer, qui est effectivement une dimension de racket, mais il y a aussi une prestation de service avec une prime de risque. Quand on risque 18 mois de tôle, on se fait payer plus cher que... quand on bosse sur le ferry,
De Lampedusa à Calais, fin de cette troisième partie. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur lampedusaunile.wordpress.com, mais aussi passeurdhospitalité.wordpress.com. ou encore calaismigrantesolidarity.wordpress.com.